André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'émissions sur l'auteur Marcel Pagnol. Né le 28 février 1895 à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, et mort à Paris le 18 avril 1974. Marcel Pagnol est un écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur français bien connu. Il a raconté dans les trois volumes qui composent son autobiographie, La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets, son enfance et son adolescence provençale. Ce fils d'instituteur public fit ses études au lycée Thiers de Marseille, puis obtint sa licence d'anglais et devint professeur à Aix-en-Provence. Il enseigna ensuite à Paris au lycée Condorcet. Il se découvrit très jeune une passion pour l'écriture dramatique et devait publier dès 1922 un drame en vers, Catulle. Il fonda également la revue Fortunio, ancêtre des Cahiers du Sud. Après deux pièces écrites en collaboration avec Paul Nivois, Tonton et Les Marchands de Gloire, qui furent représentés à Paris, Marcel Pagnol atteignit un succès avec les deux premières pièces qu'il composa seul, Jazz en 1927 et surtout Topaz en 1928, l'une des pièces les plus constamment reprises au répertoire contemporain. La suite de sa carrière devait se partager entre le théâtre et le cinéma, ce qui allait faire de lui le maître du théâtre filmé, grâce en particulier à sa célèbre trilogie marseillaise « Marius, Fanny et César », écrite pour la scène avant qu'il adaptât pour l'écran, et dont nous allons parler du premier volet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Marius, que nous allons aborder avec nos amis comédiens, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour André, bonjour Philippe et bonjour à tous.
Et Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour André, bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle série d'émissions sur l'œuvre de Marcel Pagnol. Aujourd'hui, Marius, pièce de théâtre jouée pour la première fois en mars 1929 au Théâtre de Paris qui fut adaptée au cinéma en 1931. Marius, première pièce de la trilogie marseillaise, se déroule dans le décor pittoresque du vieux port de Marseille, principalement dans le bar de la Marine tenu par César, un homme chaleureux, bavard et profondément attaché à son fils unique, Marius. Marius, jeune homme discret et rêveur, qui travaille dans ce bar depuis son adolescence, mais il est secrètement déchiré entre le devoir qu'il ressent envers son père et son aspiration à une vie d'aventure en mer. Fasciné depuis toujours par les bateaux et les récits de marins, il nourrit le désir de quitter Marseille pour découvrir le vaste monde. Pourtant, ce rêve est contrarié par l'amour qu'il éprouve pour Fanny, une jeune marchande de coquillages du quartier qu'il aime en retour. Leur relation, pleine de non-dits et de retenue, est mise à l'épreuve lorsque Panis, un commerçant aisé, veuf et ami de la famille, et tous deux finissent par vivre un amour en secret. Mais les appels de la mer restent plus forts que ceux du cœur et Marius, malgré l'affection qu'il porte à Fanny et la douleur que cela inflige à son père, décide de partir en mer en abandonnant tout sans prévenir. La pièce explore donc avec finesse et émotion des thèmes universels tels que le conflit entre les aspirations personnelles et les obligations familiales, le poids des traditions, le sacrifice amoureux et la quête de liberté. À travers une langue riche, vivante et teintée de l'accent provençal, Pagnol dresse un portrait authentique de la vie marseillaise et des tensions humaines qui traversent toutes les époques. Voici un premier extrait. Les scènes 9 et 11 du premier acte entre Fanny, Françoise et Marius, Philippe.
Qu'est-ce que tu regardes comme ça?
T'as une bien jolie chemisette.
C'est ma mère qui me l'a faite. Tu voudrais bien voir ce qu'il y a dedans, qui...
Ça ne me ferait pas peur, tu sais.
Toi, tu partirais en courant jusqu'à la Joliette.
Du gros ça?
Oui, tu es tout le temps à réfléchir et à penser. Si une fille te regarde, tu baisses les yeux.
Oh, regarde-moi un peu pour voir. Mais que t'es bête, hein. Mais qu'est-ce que t'as à rire comme ça?
Rien. Et la fille du café de la Régence, tu oses la regarder?
Quelle fille?
Avec ça, tu ne la connais pas. Elle passe ici deux fois par jour pour te faire un coup d'œil, si tu crois qu'on ne le voit pas.
La grande blonde? Je ne lui ai jamais parlé.
Alors, c'est que tu n'es pas capable de te déclarer à une fille, même si elle vient te tourner autour.
Ça, tu n'en sais rien.
Tu es timide, je le vois bien. Si une fille venait t'embrasser, tu tomberais évanouie.
Moi, je ne suis pas évanouie quand tu m'as embrassée.
Moi, je t'ai embrassée?
Ben oui.
Quand?
Ben, il y a longtemps. Un soir que nous jouions aux cachettes sur le port. J'avais bien 15 ans et toi, 11 ou 12.
Je ne me rappelle pas.
Nous étions derrière les sacs de café. Et tout d'un coup, tu m'as embrassée, là.
Moi?
Oui, toi. Et pas qu'une fois. Un autre jour aussi, sur le quai de Rive-Neuve. Tu l'as vraiment oublié?
Tu sais, quand on joue aux cachettes, c'est toujours un peu pour embrasser les garçons.
Ah, tu en as embrassé d'autres?
Oui, peut-être.
Mais qui?
Victor, Mathieu, Louis, tous ceux qui jouaient avec nous.
Tiens, tiens, tiens.
Et toi, tu n'embrassais pas les autres filles?
Moi, je ne m'en souviens pas.
Je me souviens très bien que tu avais fait une caresse à Césarine et qu'elle t'avait donné des poux.
Et un autre jour, tu l'avais giflée, parce qu'elle se cachait avec moi dans la cave.
Oh, pauvre, je m'en manquais bien qu'elle se cache avec toi. Qu'est-ce que tu vas imaginer?
Oh, je te dis ça pour parler.
Tu serais bien aimable de ne pas faire de plaisanteries de ce genre, surtout maintenant.
Pourquoi maintenant?
Parce que...
Mais qu'y a-t-il de changé?
Des choses.
Mais quelles choses?
Si tu me promettais de ne le dire à personne...
Mais tu sais bien que tu peux avoir confiance.
On dit ça, et après on répète tout pour le plaisir de parler.
Si tu ne veux pas me le dire, je ne te force pas.
Écoute, je crois que je vais me marier.
Toi?
Oui.
Mais avec qui?
Personne ne le sait encore, mais à toi je vais te le dire, parce que tu vas me donner un conseil.
Bon, mais avec qui?
Je ne suis pas malheureuse et les coquillages ne m'en plaignent pas. Mais j'aimerais mieux faire un travail où on a des employés.
Mais tu es pratique, toi?
J'ai 18 ans, c'est le meilleur moment pour choisir, parce que je ne serai jamais plus jolie que maintenant. Et il me semble que si l'occasion se présente, il ne faut pas la laisser échapper.
Et l'occasion s'est présentée?
Oui.
Qui?
Il m'a demandé à ma mère.
Qui?
Je ne sais pas si je fais bien de te le dire.
Mais si tu ne veux pas me le dire, regarde-toi-le.
Tu le sauras bientôt, vaille.
Oh, je le sais déjà. C'est le petit Victor. Il y a assez longtemps que ça se comprend.
Et toi, tu l'as compris?
Mais tout le monde l'a vu. Il venait te parler tous les soirs sous prétexte de manger des coquillages. Oh, il en a mangé tellement qu'il a failli mourir de l'urticaire.
Mais qu'est-ce que ça prouve?
Que ça prouve que c'est un imbécile. Hein? Et puis si tu comptes sur le magasin, son père n'est pas encore mort, tu sais.
Oh, je n'attends pas après la mort de personne. Et je me manque bien de Victor.
Mais alors qui c'est?
Panis.
Panis? Le père Panis?
Oui, monsieur Panis. Depuis quelque temps, je le voyais venir. Et puis dimanche dernier, il nous a menés au cabanon, moi et ma mère.
Je le sais, il y avait ta mère.
Oui. Et pendant qu'elle faisait la bouillabaisse, nous sommes allés nous promener sur les rochers. Et tout d'un coup, il enlève son chapeau et il se met à genoux.
Le père Panis? Ah!
Et il me dit qu'il m'aime, que je suis la plus jolie de toute Marseille et qu'il me veut. Et puis il se lève et il essaie de m'embrasser.
Il essaie de t'embrasser? Et alors?
Et alors, je lui donne une gifle parce que c'était le plus sûr moyen qu'il me demande à ma mère. Et ce matin, il m'a demandé. Voilà.
Eh bien, ma fille, t'es une belle menteuse.
Tu ne le crois pas?
Non.
Pourquoi?
Parce que s'il veut ta mère, je le sais. J'ai vu la robe de Norine tout à l'heure et j'ai vu comment elle lui parlait.
Bon.
T'as beau dire bonbon, mais tu ne me feras pas croire que t'as pensé une seconde à épouser Panis.
Bon. Alors, tu ne veux pas me donner un conseil?
Oui, je te conseille, quand tu voudras me faire marcher, de chercher une histoire moins bête que celle-là.
Bon.
Alors, un homme qui a les yeux plissés comme le côté d'un soufflet.
Tais-toi, le voilà.
Panis arrive, guilleret, et heureux de retrouver Fanny. Mais la relation qui s'installe entre elle et son prétendant devient insupportable à Marius, et une altercation finit par éclater entre Panis et Marius, qui sont à deux doigts d'en venir aux mains. Panis est appelé dans son magasin et sort du bar. Et Fanny et Marius se retrouvent ensemble. Voici la scène 9 entre Fanny et Marius.
Marius, tu n'es pas gentil de faire tant de bruit pour des choses qui ne te regardent pas.
Et puis je t'apprendrai qu'ici c'est un bar, ce n'est pas une maison de rendez-vous.
Dis donc, Sois un peu poli avec moi, au moins.
Je ne le mérite pas.
Et pourquoi ?
Ah, si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais jamais cru. C'est honteux ce que tu as fait avec ce pauvre vieux.
Mais quel pauvre vieux ?
Tu vois pas que tu risques de le tuer ? Du temps qu'il regardait dans ton corsage, il soufflait, il suait, il était rouge comme un gratte-cul.
Tu étais bien plus rouge que lui. Et puis, j'ai un soutien-gorge, et puis ça ne te regarde pas.
Au fond, tu as bien raison. Et j'ai bien tort de m'en mêler. J'ai d'autres soucis en tête, heureusement. Seulement, ça me fait de la peine de voir que tu es en train de devenir comme ta tante Zoé.
Je n'ai pas le droit de me marier.
Non, non, tu n'as pas le droit d'épouser un veuf qui a 60 ans.
Mais pourquoi ? Tu sais qu'il a beaucoup d'argent, Panis. Il va me faire une dot et j'aurai une bonne...
Ben, dis-moi tout de suite que tu te vends.
Et pourquoi pas ?
Fanny, si tu faisais ça, tu serais la dernière des dernières.
Quand on a une bonne, elle est encore plus dernière que vous.
Mais ce n'est pas possible, voyons. Fanny, est-ce que tu as pensé à tout ?
Comment, à tout ?
Bon, tu sais bien que quand on se marie, il ne suffit pas d'aller à la mairie, puis à l'église.
On commence par là.
Et après ?
Bah, après, il y a un grand dîner chez Basso.
Oui, mais après, hein ? Quand tu seras seule avec lui ?
Je verrai bien.
Bah, il faudra que tu te laisses embrasser.
Tant pis.
Il t'embrassera sur la bouche, et puis sur l'épaule.
Oh, tais-toi, Marius. Ne me parle pas de ces choses.
Il faut en parler maintenant, parce qu'après, ça sera trop tard. Fanny, pense aux choses que je ne veux pas te dire. Il va te serrer dans ses bras, se dégoûtant ce voyou. Oh, le salut. Oh, je sais bien. Je sais bien pourquoi tu ris, va. Mais ce n'est pas vrai.
Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai ?
Moi, tu t'imagines que je suis jaloux, n'est-ce pas ?
Oh, voyons, Marius. Pour être jaloux, il faut être amoureux.
Justement. Et je ne suis pas amoureux de toi.
Je le sais bien.
Ce n'est pas parce qu'on a joué aux cachettes qu'on est amoureux.
Mais bien sûr, voyons.
Remarque bien, je ne veux pas te dire que je te déteste. Non, c'est pas ça. Au contraire, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Je viens de t'en donner la preuve. Mais de l'amour ? Non. Oh, naturellement, si j'avais voulu, moi aussi, j'aurais pu t'aimer. Jolie comme tu es, ça n'aurait pas été difficile. Mais je n'ai pas voulu. Parce que je savais que je ne pourrais pas me marier ni avec toi, ni avec personne.
Tu veux te faire moine ?
Non, mais je ne peux pas me marier.
Pourquoi dis-tu une bêtise pareille ?
Oh, ce n'est pas une bêtise, c'est la vérité.
Et la vie se poursuit au bar de la marine, au hasard des entrées et sorties des clients et des habitués. Et dans l'acte 2, Honorine, la mère de Fanny, vient rencontrer César. Voici la scène 3 de l'acte 2, avec César, Philippe et Honorine, et puis Marius.
Bonsoir, César.
Bonsoir, Honorine. C'est vous, à 11h du soir.
Eh oui, c'est mercredi aujourd'hui. Je vais à Aix chez ma sœur Claudine par le train de minuit. Alors, comme j'étais un petit peu en avance, je suis passée par ici parce que j'ai quelque chose à vous dire.
Eh bien, dites-le, Honorine.
Ce n'est pas facile.
Mais pourquoi ?
Je viens vous parler de Fanny.
Me parler de Fanny ?
De Fanny et de Marius.
De Fanny et de Marius ? Alors, asseyez-vous, Honorine. Qu'est-ce que vous prenez ?
Ce sera un mandarin citron.
Alors, Fanny et Marius, c'est difficile à dire.
Enfin bref, Panis veut la petite.
Mais pourquoi faire ?
Mais pour l'épouser.
Comment ? Panis veut épouser Fanny ?
Il me l'a demandé ce matin.
Oh, le pauvre Fada, mais quelle mentalité ! Mais il est fou, ce pauvre vieux.
C'est ce que j'y ai dit, mais il veut une réponse pour demain.
Mais qu'est-ce qu'elle dit, la petite ?
Elle dira peut-être oui, si elle ne veut pas avoir celui qu'elle veut.
Et... c'est Marius qu'elle veut ?
Tout juste.
Aïe, 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 je commence à comprendre le carnage d'hier après-midi.
Figurez-vous que tout à l'heure, je l'entends qui pleure dans sa chambre. Déjà cette nuit, il m'avait semblé qu'elle reniflait beaucoup. Alors j'y vais sans me faire de bruit et je la trouve allongée sur son lit. Qu'est-ce que tu as ? Elle me fait, j'ai la migraine. Cette nuit aussi, tu avais la migraine ? Oui, cette nuit aussi. Alors il va falloir te mener au docteur. Non, je ne veux pas aller au docteur. Et elle pleurait toujours, alors je lui dis, « Vais, ma petite Fanny, je suis ta mère, n'est-ce pas ? Si tu ne me dis pas à moi, tu ne le diras à personne. Qu'est-ce que tu as ? J'ai rien. » Alors je l'embrasse, je la menace, je la gronde, je la supplie. Bon Dieu, quelle patience ! Et j'avais fait ça, ma pauvre mère, d'un vire main, elle aurait mis la figure de l'autre côté.
Ah, je comprends, hein. Et alors ?
Et enfin, bref, à la fin des fins, elle me dit qu'elle aime Marius et qu'ils se sont parlé hier au soir.
Très très bien. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit ?
Il ne veut pas qu'elle prenne Panis.
Bon, mais lui, Marius, il lui a dit qu'il aimait ?
À ce qu'il paraît, qu'il le lui a fait comprendre.
Ah oui ? Il a un peu embrassé.
Et non, il le lui a fait comprendre. Voilà ce qu'elle m'a dit.
C'est bizarre. Il lui a fait comprendre sans l'embrasser.
À ce qui le paraît.
Enfin, elle vous a dit qu'ils se veulent tous les deux.
Marius lui a dit qu'il ne voulait pas l'épouser.
Mais pourquoi ?
Et il ne veut pas le dire. Ma petite, elle lui a presque demandé sa main, ce bon monsieur. Et il ne répond pas. Il me l'a fait pleurer sans même dire pourquoi. Dites, César, qu'est-ce que c'est que ces manières comme ça? Qu'est-ce qu'il lui faut à ce petit mastroquet? Une princesse?
Ne vous fâchez pas, Norine. Après tout, peut-être qu'il ne l'aime pas.
Il ne l'aime pas? Il serait le seul à Marseille. Tous les hommes la regardent. Il n'y a que lui qui ne la verrait pas. Et puis s'il ne l'aime pas, pourquoi est-il jaloux de Panis?
Après tout, ça n'est peut-être pas difficile à arranger.
Eh bien, tâchez de l'arranger vite, parce que si ma petite continue à pleurer la nuit... Moi, je fous le feu à votre baraque.
Et doucement, Nourine, doucement. Il la refuse. Eh bien, nous allons l'atteindre ici et puis nous lui demanderons pourquoi.
Ah non, pas devant moi.
Mais pourquoi?
Je ne veux pas qu'il le sache que je suis venue. Parce que moi, je connais les hommes. Si on lui dit que c'est Fanny qui a demandé sa main, elle ne pourra plus lui faire une observation parce qu'elle lui dira « C'est toi qui m'as demandé. C'est ta mère qui est venue raconter que tu pleurais, etc., etc. » Il finira par la mépriser, ils seront très malheureux.
Eh bien, je ne lui dirai pas. Mais alors elle, il ne faudra pas qu'elle lui parle de Panis, hein.
À quel propos?
Parce que si vous connaissez les hommes, moi je connais les femmes. Quand ils seront mariés, à la moindre dispute, elle lui dira « Et dire que pour toi j'ai refusé Panis, un homme qui avait des 5 000 francs, maintenant je serai riche, j'aurai la bonne et l'automobile, etc. etc. » Elle fera mourir à coups de Panis. Je connais le refrain, je l'ai déjà entendu. Ma pauvre femme, elle, c'était un marchand de bestiaux qui l'avait demandé. Elle m'en a parlé pendant 20 ans. Et pourtant, c'était une femme qu'on n'en verra jamais plus.
Écoutez, ne lui dites rien. Et je vous promets qu'elle ne parlera jamais de Panis.
Entendu.
On trinque?
On trinque.
Alors, l'idée de ce mariage vous plaît à vous?
C'est à voir. Attention que Marius ne vienne pas nous écouter. Si l'affaire se faisait, qu'est-ce que vous lui donneriez, vous, à la petite?
Je lui donnerai l'inventaire de coquillages. En le faisant tenir par une bonne commise, ça peut rapporter 40 francs par jour de bénéfices nets.
Ce n'est pas beaucoup.
Vous savez, il y en a qui seraient bien contents de la prendre sans rien. Nous ne sommes pas en Afrique. Elle n'est pas bossue pour que je lui achète un mari.
Oh, mais dites, si votre fille n'est pas bossue, moi, mon petit, n'est pas boiteux. Et vous pouvez chercher sur tout le port de Marseille. Vous en trouverez peut-être des plus grands et des plus gros, mais des plus beaux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous avez beau faire, il n'y en a pas. Et vous savez, ce n'est pas parce que c'est mon fils. Moi, je vous parle impartialement. Il est beau, mon petit. C'est un beau petit.
Alors, parce qu'il est beau, il lui faut la fille de Rothschild?
Mais non, il ne s'agit pas de Rothschild. Mais s'ils se marient et qu'ils aient des enfants tout de suite, hein, il leur faut de l'argent.
Oh. S'ils ont des enfants, je leur ferai une petite rente tant que j'aurai mon bande à la poissonnerie.
Alors comme ça, ça peut aller.
Et vous, qu'est-ce que vous lui donnez?
Moi? Il continuera à m'aider au bar en attendant que je me retire. Je les logerai ici, il y a de la place. Et je lui donnerai 1500 francs par mois.
Ah non, César, il faut que vous lui donniez un peu plus.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui donne?
Mais il faut que vous lui donniez.
Marius arrive par la porte. Honorine le voit, elle change de ton et parle au hasard, comme si elle continuait une conversation.
Deux belles tranches de fiala et une rascasse de 2 kilos qui remue encore la queue.
Que je lui donne une rascasse de 2 kilos qui remue la queue?
Mais oui. Et puis, je vous mettrai des floupélins, des favouilles et un peu de galinette.
Oh, mais dites, Norine, ne buvez plus, Norine.
Marius.
Marius? Ah oui, naturellement. Des flouplans, un peu de galinette, oui. Eh bien, vous pouvez mettre une jolie langouste.
Et tu commandes une bouillabaisse?
Eh oui, une belle bouillabaisse. Tu arrives enfin, Marius.
J'étais allé faire un petit tour et je me suis mis en retard.
Alors, Honorine, t'as entendu? Demain, nous nous mettrons d'accord là-dessus.
Le plus tôt possible, parce que cette bouillabaisse-là, ça n'attend pas. Allons, je vais prendre mon train. Au revoir, César.
L'acte 3 commence par la scène devenue mythique de la fameuse partie de Manille entre les amis. Escartefigue, Panis, César et M. Brun, le Lyonnais. Et non moins célèbre, tu me fends le cœur. Puis, la première tentative de départ pour le grand large de Marius échoue. Fanny pense qu'il s'agit d'un signe et durant un mois, Elle voit Marius en cachette. Honorine surprend les deux enfants dormir ensemble et elle va à la rencontre de César pour le sommer de convaincre les enfants de se marier en urgence afin d'éviter un probable scandale. César en parle à Marius et celui-ci lui répond qu'il a enfin décidé d'épouser Fanny. Un marin du bateau La Malaisie se rend au bar et vient chercher Marius pour un nouveau départ. Le jeune homme lui explique discrètement que malgré l'achat de sa place sur le bateau, il a changé d'avis. Le marin l'incite à voyager avec lui dans le monde entier, mais Marius refuse en avançant qu'il tient sa promesse. Fanny entend la conversation et insiste pour que Marius monte sur le bateau. Voici la scène 6 de l'acte 4 entre Fanny et Marius.
Marius, je n'ai pas écouté, mais j'ai entendu.
Mais tu as entendu que je tiens ma parole ? Le bateau s'en va, j'ai ma place à bord et moi je suis ici. Je lave les verres et j'astique le comptoir.
Ça prouve que tu es honnête. Eh bien, moi aussi je suis honnête. Je ne suis pas un piège, Marius. Si tu veux partir, tu es libre.
Tu ne penses pas ce que tu dis. C'est maintenant que tu me tends un piège. Tu veux voir ce que je vais faire ? Eh bien, tu le vois, je reste avec toi.
J'ai bien réfléchi, Marius. Depuis plus d'un mois, je te regarde et j'ai bien vu que tu regrettes ce qui nous est arrivé. Mais que tu restes pour réparer ta faute, tu n'es responsable de rien. Cette faute est mienne. Ne t'en charge pas.
Alors tu crois que je ne t'aime pas ? Quand je te fais un si grand sacrifice ?
Je crois que tu m'aimes, à ta façon. Et je sens bien que cette corde qui tire ne se cassera jamais. Moi, je n'ai pas la force de te retenir. Et alors, puisqu'il te faut ta liberté, au moins que ce soit moi qui te la donne. Puisque c'est la mère que tu préfères, marie-toi avec la mère. Nous verrons plus tard.
C'est comme ça que tu m'aimes ?
Oui, c'est comme ça.
Mais toi, pendant 3 ans, qu'est-ce que tu ferais ?
Je te l'ai dit, je t'attendrai. Nous avions convenu que tu naviguerais après. Mais j'ai bien réfléchi. Il vaut mieux avant, parce que peut-être tu reviendras guéri. C'est très grave, un mariage. Je ne veux pas risquer de faire ton malheur et peut-être le mien.
Mais Fanny, ce n'est pas possible. Je ne veux pas croire que tu parles sérieusement.
Parce que tu trouves ça que ce serait trop beau. Eh bien, c'est trop beau. Va prendre ton sac.
Fanny, fais bien attention de ne pas me le dire encore une fois. Je suis sûr que je partirai, tu m'oublierais.
Et ça te ferait bien plaisir, parce que tu m'aurais oublié avant. Tu aurais vu tant de choses sans moi. La Calédonie, les îles sous le vent. Ce bateau va partir sans toi et tu me le reprocheras toute ma vie. Tu n'as plus envie maintenant ?
Oui, j'ai envie, oui. Mais je trouve que tu acceptes ça bien facilement.
Tu voudrais que je pleure et que je m'accroche pour te garder ?
Non, non, je ne le voudrais pas, mais j'en avais peur.
Eh bien, ne crains rien. Tu vois que je suis raisonnable et que je te comprends.
C'est ta mère qui t'a conseillé ? Elle attend que je sois partie pour te vendre à Panis.
Si tu as besoin d'un prétexte, celui-là est bon. Et puis, justement, il m'a encore demandé ce matin.
Mais qu'est-ce que tu lui as répondu ?
Je n'ai pas dit oui.
Mais tu n'as pas dit non.
On ne sait pas ce qui peut arriver.
C'était ça ta générosité ? J'aurais dû comprendre plus tôt.
Ce n'est pas pour moi, Marius. Tu sais bien que dans les familles, il y a des questions d'intérêt. Il faut penser à l'avenir. Ma mère n'est plus jeune, son travail la fatigue. L'amour n'est pas tout dans la vie. Il y a des choses plus fortes que lui.
Oui, l'argent.
L'argent, la mère.
Chacun s'en va vers ceux qu'il aime. Toi, épouse l'argent de Panis et moi, je suis libre. J'épouse la mère et... Oui, oui, j'épouse la mère. Ça vaut mieux pour tous les deux.
Oui, ça vaut mieux.
Marius sait que les finances de ce dernier l'aideraient avec sa mère et donc il lui a conseillé d'épouser Panis et s'en va en évitant de croiser son père. César rentre et discute avec Fanny, heureux à l'idée qu'elle se marie avec Marius, ignorant tout de la situation. Il évoque avec joie un futur bébé. La sirène de la Malaisie retentit et Fanny s'évanouit dans les bras de César. C'est la fin du premier volet de la trilogie Marius. Marcel Pagnol donna au 7e art, entre autres, Merlus, Cigalon, le Schpouns, la fille du Puisatier, la belle Meunière, Manon des Sources, ainsi que plusieurs films inspirés de l'œuvre d'un autre Provençal, Jean Giono, Angèle, Regain, la femme du boulanger. Il fut servi par les plus grands interprètes de l'époque, Louis Jouvet, Rému, Pierre Fresnay, Fernandel. Dramaturge et poète, Marcel Pagnol a su faire revivre dans son œuvre une Provence vivante, dépeignant entre rire et émotion l'âme et les mœurs méridionale. Son talent, qui dépassait les frontières, l'avait immortalisé avant son élection à l'Académie à 51 ans, le 4 avril 1946, par 15 voix au fauteuil de Maurice Donnet, qui avait occupé son siège de 1907 à 1945. Sa réception le 27 mars 1947 par Jérôme Tarot fut filmée, ce qui constituait une première dans l'histoire de l'Académie française. François Mauriac a tracé de lui dans son bloc-notes un portrait amical en disant « Pagnol, le seul à ne pas avoir de socle. Il semble s'être glissé dans cette antichambre de l'éternité en passant par la fenêtre. Le seul qui sente l'air du dehors. » Merci Françoise et merci Philippe. Notre émission est maintenant terminée. La suite pour le deuxième volet de la trilogie de Marcel Pagnol. La semaine prochaine, ça sera Fanny. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Alors, c'est un dialogue entre César et Marius. César qui explique à Marius comment faire un cocktail. Alors, il lui dit, d'abord, tu mets un tiers de curaçao, un tiers de citron, un bon tiers de piquant. Et à la fin, un tiers d'eau. Marius, mais ça fait 4 tiers. Mais dans un verre, il n'y a que 3 tiers. César, mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Marius, mais non, ça dépend pas. Même dans un arrosoir, on peut mettre que 3 tiers. César, alors explique-moi comment j'ai fait pour mettre 4 tiers dans ce verre. Et voilà, et autre citation aussi, qu'il y en a beaucoup dans ce texte. C'est César qui dit, escarte-figue, et quand on fera danser les couillons, tu seras à l'orchestre. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de notre radio, altitudefm.com. Et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler au 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, mis en scène, éclairé, sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.